Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Melrose Place.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Nous sommes le 11 septembre 1995. Il est presque 20h. Vous vous préparez à suivre votre soap favori à la télé. Ce soir, c'est le début de la 4e saison. Vous avez préparé les chips et la boisson gazeuse. Je dis pas de marque quand même. Vous êtes prêt à retrouver les histoires d'amour un peu fofolles de ces jeunes adultes. Vous espérez que Allison va enfin réagir un peu plus fermement et arrêter de se laisser marcher sur les pieds par Amanda. Et puis Billy, lui, il est craquant, mais Jane a beau avoir l'air un peu glacial comme ça, elle vous séduit pas mal. Voilà, ça y est, il est 20h sur la chaîne Fox. Et là, devant vos yeux ébahis, vous avez ça.
Non !
La résidence où vivent les personnages vient d'exploser. Sous vos yeux, mais pas un petit peu, une grosse explosion multiple, une explosion qui n'en finit pas. Ça explose de partout, les corps volent en l'air, sont projetés au sol sous des tonnes de débris, ils tombent dans la piscine, mais ils sont malades, c'est hallucinant. Bon, en plus, vous auriez dû y penser avant, parce que à la fin de la saison précédente, le dernier épisode avait pour titre « The Big Bang Theory ». Mais là, qu'ils aient osé le faire comme ça, c'est tout bonnement insensé, c'est du grand n'importe quoi, Mais au fond, il n'y a rien d'étonnant. Parce que vous regardez un soap où c'est n'importe quoi. Et c'est ça qui est génial. Vous regardez Melrose Place. Allez, retour en arrière. En 1992, le mercredi soir sur la chaîne Fox, vous regardiez, encore et toujours, Beverly Hills. Bon, non pas que ce soit votre type de série, mais elle était alors en plein durant la deuxième saison. Elle était extrêmement populaire et elle a entraîné un déferlement d'autres séries qui allaient avoir pour protagonistes de jeunes ados. Des chanteurs dans The Heights, des libidineux dans 2000 Malibu Road, des avocats dans The Round Table, des pleurnichards dans The Class of 96. Et puis vous aviez bien remarqué dans les épisodes de fin de saison, ce nouveau personnage, Jake Hanson, une sorte de James Dean, matinée de Fonzie, vous voyez le genre, le rebelle sur sa moto, le tombeur ténébreux qui donne un coup de main à Kelly pour redécorer sa maison. Ce qui vous a marqué, c'est que Jake est tout de même un peu plus âgé qu'elle et que la plupart des autres personnages de Beverly Hills. Ça, c'est curieux quand même, il est quand même un tout petit peu plus âgé. Et dans un épisode, Dylan, le regretté Luke Perry, demande à Jake, interprété par le nouveau venu Grant Shaw, où il vit en ce moment. Et Jake répond, un petit endroit, pas loin de Melrose Avenue, rien de spécial. Ça aurait dû vous mettre quand même la puce à l'oreille. Et oui, car Aaron Spelling, le producteur de Beverly Hills, est d'une tonne de séries de la décennie précédente, de Starsky et Hutch à Dynasty, en passant par La Croisière s'amuse et L'île fantastique. J'ai répertorié pour vous près de 2642 épisodes, approximativement. Et Darren Star, 32 ans, le jeune créateur de la série Beverly Hills, voulait très naturellement profiter eux aussi de la tendance qu'ils avaient contribué à lancer et faire leur propre spin-off de la série. Bon, enfin, ouais, franc, un faux spin-off, parce que si on veut être très rigoureux, vous savez que je suis quand même un petit peu rigoureux, peut-être un peu trop par moment, le spin-off, c'est une série dérivée plutôt à partir d'un personnage de la série d'origine. C'est un peu comme Friends qui donne naissance à Joey parce qu'on trouve que le personnage de Joey est vachement bien, donc on lui donne sa propre série. Ou comme Young Sheldon à partir du personnage de Big Bang Theory. Là, il s'agit plus de se servir de Beverly Hills comme d'un tremplin pour y lancer la nouvelle série. Donc, le bad boy, Jake, il apparaît comme ça dans 3 épisodes. Il est lancé dans Beverly Hills, mais on a déjà prévu, validé et travaillé sur Melrose Place, la série où il sera personnage régulier. Ce que Darren Star souhaitait, c'était de se focaliser sur la vie de personnages plus âgés que ceux de Beverly Hills, en plein dans la vie active, loin de leurs parents, des gens qui ont une vingtaine d'années. Ce qui les réunit, c'est le complexe où ils ont loué leur appartement, Melrose Place. Melrose Avenue est un lieu assez iconique de Los Angeles et symbolise bien la jeunesse, la mode, le côté un peu avant-gardiste, quoi. Bon, en fait, le vrai Melrose Place n'est pas du tout situé à cet endroit-là. On y trouve à Melrose Avenue que des boutiques, aucun appartement. Au numéro 4616, c'est absolument pas ça si vous y allez, hein, moi je vous préviens. Bon, peu importe, c'est de la fiction tout ça. Dans ce groupe de jeunes gens qui ont tous la vingtaine, il y a donc Jake, il y a un couple, les Mancini, avec Jane Mancini qui est une styliste, et Michael qui est un médecin. Il y a Allison Parker, qui bosse dans une agence de pub, D&D, mais bon, elle bosse comme standardiste, hein. Il y a Billy, qui lui veut devenir écrivain. Il y a Sandy, qui est une serveuse, qui veut devenir actrice. Il y a aussi Rhonda, qui est prof d'aérobic. Et il y a même un travailleur social, Matt. Bref, des jeunes de 20 ans qui ont des rêves et qui veulent tous aller au-delà de ce qu'ils font actuellement. Au démarrage de la série, il y avait d'ailleurs trois choses qui vous avaient marqué. Un personnage de couleur, Rhonda, la prof d'aérobic. Un personnage ouvertement gay, Matt, qui est dans la continuité 10 ans plus tard de Stephen Carrington de Dynasty. Et un autre acteur pour jouer Billy. Ah oui, alors là, en effet, vous êtes sûr et certain d'avoir vu des photos avec un autre comédien, Stephen Fanning. Parce que vous y connaissez en comédien, hein. Et vous allez apprendre qu'effectivement, il a été remercié. Mais remercié après quelques jours de tournage du pilote. On va dire, je vais essayer de le faire avec tact, que son physique n'est pas tout à fait en accord avec le personnage que l'on souhaitait qu'il ait dans la série. Bon, en gros, il avait un peu de bide, hein. Ouais, bref. Melrose Place. Comme la série avait été initiée par Beverly Hills, vous êtes devant votre écran. Encore, le 8 juillet 1992, pour le premier épisode. Il s'avère qu'il y a une gigantesque campagne marketing quand même, hein, c'est très attendu. Vous étiez d'ailleurs 16 millions à le regarder et à découvrir ce premier épisode et cette distribution d'acteurs et d'actrices, tous et toutes aussi super sexy les uns que les autres. Il y a Thomas Calabro, Courtney Thorne-Smith, ouais, c'était elle ou Courtney Cox pour le personnage de la gentille Allison. Hein. Il y a Doug Savant, il y a Josie Bissette, Amy Locane, Vanessa Williams et Andrew Shue qui reprend en pied levé le rôle de Billy, alors que Stephen Fanning n'est même pas au courant et le découvre assis tranquillement dans sa propre loge. La grande classe. Sauf que, bah oui, c'est une série, hein. Si au départ le marketing fonctionne, après c'est sur la longueur, il faut voir. Et là, épisode après épisode, ben vous, vous ennuyez ferme. Tension romantique entre Billy et Allison exceptée, la série n'est pas très très passionnante. C'est un peu trop ancré dans le réel à votre goût. On voit même certains des personnages qui pointent au chômage. Il y a les apparitions de personnages de Beverly Hills pour faire un peu le lien avec les deux séries, puis pour faire un peu remonter l'audience. Il y a Kelly, il y a Steve, il y a David par exemple. Mais le reste n'est pas assez profond pour être pris au sérieux. Bref, non seulement l'audience chute, mais vous, vous commencez quand même à vous ennuyer ferme devant ces épisodes sans grand intérêt, qui ressemble un peu plus à une chronique de la vie quotidienne, sociale et réaliste, avec une petite morale à la fin. Bon, il y a bien l'histoire de Jane qui fait une fausse couche, mais enfin quand même, hein, bon. Après 13 épisodes, vous avez constaté que ça commençait quand même un petit peu à secouer du côté de Melrose Place, hein, comme si en effet, les types derrière la caméra commençaient un peu à réagir. Sandy, l'apprentie actrice, elle part pour New York. Allez hop, vous avez lu en 2012 que Amy Locane, qui était Sandy à l'époque, a purgé 3 ans de prison pour un accident mortel alors qu'elle conduisait en état d'ivresse. Rhonda va peu après quitter la série, elle aussi. Vanessa Williams, son interprète, sera par la suite vedette de Soul Food et elle jouera dans Murder One. Pour apporter un côté un peu new-yorkais à ce groupe de personnages très californiens, en cours de saison 1, Darren Star crée le personnage de Joe Reynolds, une photographe au passé mystérieux qui fuit un ex. Un ex qui la harcelait bien sûr, sinon ça serait pas un soap opéra. L'actrice qui tient ce nouveau rôle, Daphne Zuniga, est une amie d'études de Darren Star, le créateur de la série. De même, on donne à la gentille Jane une sœur, Sydney, jouée par Laura Lathon, qui est complètement immature et qui porte sur les nerfs de Jane. Mais ça ne suffit pas. Pour remonter les audiences, il faut du lourd. Il faut une injection de sexe et de garce. Un peu comme Alexis Colby dans Dynasty ou de Abby Cunningham dans Côte Ouest. Alors, Aaron Spelling joue sa carte maîtresse, celle qui peut sauver sa série. Elle s'appelle Iver Locklear. Locklear, c'est une blonde explosive, ultra sexy, et en plus, c'est une excellente actrice et une bonne camarade. Elle sera nommée plusieurs fois au Golden Globe. Elle a tenu le rôle de Sammy Joe dans Dynasty, puis, dans un autre registre, elle fut la vedette de Hooker aux côtés de William Shatner. Et pour être aux côtés de William Shatner, il faut vraiment le vouloir. Elle va être la vedette invitée de prestige de quelques épisodes et tiendra le rôle de Amanda Woodward, une chef de département de D&D, l'agence de pub où travaille Allison. Quelques épisodes, 4 tout au plus, juste le temps de créer un triangle amoureux entre Allison, Billy et Amanda, et donc de secouer un petit peu Melrose Place. Et ça marche. Nous sommes en janvier 1993, aux deux tiers de la première saison de Melrose Place. Et les confrontations explosives entre cette garce d'Amanda et cette petite naïve d'Allison, mélangeant allègrement les rivalités amoureuses et les options professionnelles, font mouche. L'audience grimpe. Courtney Thorne-Smith le disait très bien. D'une série avec 8 jeunes adultes qui tentent d'arriver dans la vie, à l'arrivée de Heather, c'est devenu une série avec des choses dingues qui surviennent. Bon, Heather Locklear, là, elle restera bien ou 2 épisodes de plus, hein, n'est-ce pas ? D'autant que, à l'opposé du rôle qu'elle joue, ça se passe super bien avec le reste du casting. Les autres femmes de la série sont très copines avec elle. À partir de ce moment, Melrose Place pousse les curseurs du romanesque, un peu comme Plus belle la vie d'ailleurs, et tente des trames bien plus sensationnelles que jusqu'alors. Allison va rompre avec Billy, Jane va fauter avec Sam, son mari Michael va, lui qui est si sage d'habitude, commencer une relation passionnée avec la docteure Kimberly Shaw, pour dire ensuite à sa femme que, juré promis, il a rompu, bon, alors que c'est complètement faux. Amanda va tomber enceinte de Billy, puis va faire une fausse couche. Clairement, les histoires d'amour, de rivalité, de trahison, ben, ça fonctionne toujours, et ça fonctionne beaucoup mieux que les ingrédients sociétaux du début. Et figurez-vous que j'avais parlé de cette évolution de la série à Darren Star, en personne, le créateur donc de Melrose Place, c'était en 2009, au Festival de télévision de Monte Carlo. Quelqu'un ne vous a-t-il jamais parlé du tout début de Melrose Place, de l'original ? Personne ne vous a jamais rappelé qu'à l'origine, c'était des gens d'une vingtaine d'années qui allaient au bureau du chômage, tel que l'a montré le tout premier épisode, avant que ça ne devienne la série déjantée qu'on connaît tous ? Parce que, au tout début, Melrose Place, c'était quand même très ancré dans la réalité, non ? Oui, tout à fait. Et je pense que, vous savez la raison, c'était une série dérivée de Beverly Hills. À l'époque, pour cette série, chaque semaine, c'était un sujet différent. Et je pense que quand on a essayé ça avec Melrose Place, c'était vachement ennuyeux. Je pense que Melrose Place est devenue ce qu'elle est devenue parce que j'étais tellement anxieux de voir le public continuer de regarder et raconter des histoires qui le scotcheraient, qui scotcheraient les gens à leur télé. Et aussi, on a eu la chance d'engager Heather Locklear, qui jouait un tout petit rôle. Pas le rôle qu'elle a eu par la suite, mais juste, elle m'inspirait beaucoup. Et une fois qu'elle a intégré la série, je me suis dit, ok, on peut aller quelque part. On peut arranger le truc de cette manière. Et vous savez, je pense que Melrose Place est devenue la série en quelque sorte d'un acte ultime pour que les gens continuent de regarder, tout simplement. J'ai simplement pensé que chaque épisode serait le dernier. Donc j'ai juste essayé de me lancer, et puis on a eu une première saison mouvementée. Donc personne ne se rappelle du premier épisode, hein ? Bon, bah c'est plutôt bien. Moi, si. Arrivé à la fin de sa saison initiale de 32 épisodes, Heather Locklear est devenue une special guest star permanente. Une vedette invitée, mais invitée à chaque épisode, quoi. Bah, une vedette invitée à vie, quoi, quelque part. Et pour sceller ce succès, dans le dernier épisode de la saison, Amanda rachète le complexe immobilier tout entier. C'est elle, maintenant, qui est la propriétaire de Jane, de Michael, de Joe, de Jake, de Matt, et surtout de Billy et Allison. Ha ha ha! La saison 2 va tenir compte de ces changements profonds que la série a vécu. Darren Star tente toujours d'injecter un petit peu de drame, un peu sérieux dans la série, surtout avec les personnages de Joe et de Matt, par exemple. Il va jusqu'à offrir un mariage blanc à Matt avec une docteure qui a besoin de papiers officiels pour rester en Amérique et élever sa fille. Mais ce que les téléspectateurs guettent, ce sont les vacheries qu'Amanda va faire à Allison pour briser son couple avec Billy. Comment le nouveau triangle amoureux entre Joe, Jake et Amanda va-t-il finir ? Ou comment Allison va pouvoir se débarrasser de Keith, son ex-petit ami légèrement psychopathe, incarné par William R. Moses, un jeune acteur qui fut des années durant une des vedettes de Falcon Crest. Après avoir tenté de violer Allison, oui, Keith se suicidera. Darren Star et ses scénaristes repoussent un petit peu plus les limites du bon goût pour créer des chocs auprès des spectateurs devenus accros à la série. Sydney, par exemple, la jeune sœur un peu garce de Jane, revient dans la série. Elle va commencer à coucher principalement avec son beau-frère, et narguer sa sœur, donc, en portant sa robe de mariée, une confrontation qui finira dans la piscine. Mais tout ça est rigolo, sauf que, sans sous, Sydney va commencer une carrière de stripteaseuse, puis de prostituée. Elle va même finir mère maquerelle, ni plus ni moins. Mais la transformation la plus frappante, c'est celle de Michael. Le gentil mari de Jane, durant la première saison, devient maintenant un type machiavélique, voire même maléfique durant la seconde, et va non seulement coucher avec Sydney, la sœur de sa femme, puis il va très vite divorcer pour se mettre officiellement avec sa collègue, Kimberly Shaw. Et là, coup de théâtre, alors qu'il rentre en voiture, Michael propose le mariage à Kimberly. Mais... Ah oui, vous avez bien entendu, à peine 12 épisodes, un tiers de cette deuxième saison, Darren Star sacrifie Kimberly, morte dans l'accident de voiture que Michael a provoqué. Sauf que, et là vous êtes vraiment cloué à votre fauteuil, 5 mois et 13 épisodes plus tard, Kimberly ressurgit, mystérieusement. Et c'est là où les scénaristes vont tenter le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Dans une scène qui est devenue mythique, Kimberly qui a donc récupéré Michael, mais qui souffre de bien curieux maux de tête depuis son retour dans Puis les Morts, se regarde dans le miroir une nuit dans la salle de bain. Et à la surprise absolue de tous les spectateurs, elle arrache une perruque et révèle un crâne rasé et une cicatrice monstrueuse et gigantesque sur le côté de la boîte crânienne. Visiblement, elle a subi, après son accident, une trépanation. Cette scène provoque un choc chez tous les fans qui, depuis quelques mois, ont pris l'habitude de se réunir, comme vous le faites vous aussi, là, justement, avec les chips et les boissons gazeuses, pour regarder tous ensemble les épisodes de Melrose Place et réagir devant les histoires outrancières que la série propose dorénavant. Mais le coup de la trépanation, là, franchement, personne ne l'a vu venir. En plus, la cicatrice, elle est franchement gigantesque, quoi. Comme les audiences prouvent que ce genre de rebondissement totalement improbable est très apprécié du public, Darren Star va définitivement abandonner les questions sociétales et morales pour des histoires de sexe et de personnages machiavéliques. En fait, Kimberly devient une manipulatrice psychopathe. Elle fait du chantage à peu près tout le monde. Elle va même tenter de renverser Michael en voiture. À quelques heures de son mariage avec Billy, Allison va soudain se souvenir que, quand elle était enfant, elle s'est fait violer par son propre père. Elle va donc fuir le mariage alors que Billy attend en pleine cérémonie. Là, c'est comme un peu outrancier comme attitude. Hein. Et alors que Darren Star et Doug Savant pensent entrer dans l'histoire de la télévision en filmant Matt, qui se fait embrasser par le témoin de Billy au mariage et créant ainsi le premier baiser homosexuel de tout le prime time américain, la chaîne Fox se dégonfle à quelques heures de la diffusion et coupe la scène. C'est particulièrement nul pour l'acteur, Doug Savant, qui, depuis le début, a bien veillé à ne pas proclamer qu'il est hétéro, comme tant d'autres le font avant lui, parce que lui, il est investi et il soutient la cause gay. C'est maintenant très clair, Melrose Place, ses personnages colériques, ses histoires outrancières sont devenus un vrai plaisir coupable. Un petit événement hebdomadaire parce que totalement imprévisible. La série est surindustrialisée à tel point qu'on tourne 2 épisodes simultanément dans les studios de Santa Clarita. Conscient de détenir là un phénomène de mode qui dépasse largement Beverly Hills, Aaron Spelling sait, ce qu'il sait faire de mieux, multiplier la poule aux œufs d'or et lancer un spin-off d'un spin-off. Comme il l'avait fait il y a 2 ans, il va lancer les nouveaux personnages de la nouvelle série dans quelques épisodes de Melrose Place. Là, il s'agit de la mère d'Amanda. Oui, parce qu'Amanda, elle a beau être machiavélique, elle a une mère quand même. La mère d'Heather Lockridge, donc, c'est Hilary Michaels. Et elle est propriétaire d'une agence de mannequins, ça tombe bien. Des top modèles, quoi. L'agence Models Inc. Hilary y avoir les traits de Farrah Fawcett, c'est au final Linda Gray. Ah, vous avez bien entendu Linda Gray, Sue Ellen dans Dallas. Ici, elle devient la patronne à poigne de fer d'une agence faite de filles souffrant d'anorexie, de mégalomanie, des filles machiavéliques, diaboliques, etc., etc. Et c'est un mois à peine après la fin de la saison de Melrose Place, en juin 1994, que Models Inc. est lancée. Avec, aux côtés de Linda Gray, des actrices en devenir, bon, je vais essayer d'être poli, comme Carrie Ann Moss de Matrix, Garcelle Beauvais de NYPD Blue et Spider-Man Homecoming, ou Stephanie Romanoff, un vrai top modèle qui joue si bien qu'elle interprétera 2 personnages distincts. Terry, qui se fait tuer après 8 épisodes, et Monique, qui est son double parfait. Initialement, d'ailleurs, Joe, vous savez, la photographe de Melrose Place, là, elle devait aussi venir dans cette nouvelle série. Normal, elle est photographe, donc pour les top modèles, ça peut coller. Sauf qu'on a oublié de la prévenir. C'est ballot, hein, quand même. Initialement encore, la série ne devait durer que 8 épisodes. C'était vraiment une petite série pendant l'été, une mini-série, quoi. Darren Star ne désirait même pas y participer. Mais la série va durer. Et comme elle ne prend pas dans les audiences, malgré des trames encore plus délirantes et outrancières comme le Rolf Place, on va tenter de reproduire l'effet Hiver Locklear. Et on balance une garce machiavélique en plein milieu de la saison, en la personne de Emma Sams, une ancienne de Dynasty, qui ne convainc absolument pas dans ce nouveau rôle extrêmement caricatural. Après 29 épisodes, en mars 1995, la série est arrêtée en plein suspense. Mais il y a une fin. Une fin qui a été tournée quelques semaines auparavant, au cas où le couperet de l'annulation tombe, justement. Mais une fin qui n'avait pas été initialement inclue dans l'épisode. Elle s'est retrouvée, via l'insistance de la chaîne Série Club, qui rediffusait la série. Elle a été rajoutée, elle permet de clore une grande partie des intrigues. Si un jour, vous avez l'occasion de tomber sur les épisodes de Models Inc., ne passez pas à côté. C'est pire qu'un plaisir coupable, c'est tellement délirant, c'est tellement trash, qu'on est dans la trash TV revendiquée. À la rentrée 1994, le phénomène Melrose Place touche 14 800 000 téléspectateurs américains. La série fera même la couverture du magazine Rolling Stone. Sur le petit écran, tout maintenant est possible. Bruce, le supérieur d'Amanda au sein de l'agence de pub, se pend dans son bureau suite aux attaques et manigances de cette dernière. Allison devient alcoolique. Elle va percuter un cycliste alors qu'elle est au volant. Jen va passer un séjour en prison. Joe va tomber enceinte de son ex. Bon, son ex qui est décédé, hein. Sydney est envoyé en hôpital psychiatrique. Puis elle passera un séjour dans une secte dangereuse, hein, comme on en voit dans les séries télé. Matt se fait piéger par un homme qui le fait accuser du meurtre de sa femme. Amanda a un cancer. Ça, les scénaristes vont regretter, hein, parce que l'histoire est un peu bancale. Enfin, comme les autres. Jack doit affronter son frère, Jess, un frère jaloux et un frère même qui va jusqu'à frapper Joe. Et le nouveau chef médecin de l'hôpital, le docteur Peter Burns, joué par Jack Wagner, rend la vie très difficile à Michael et Amanda. Et la jeune Brooke Armstrong, interprétée par Christine Davis, une Christine Davis que l'on retrouvera par la suite dans Sex and the City, arrive dans la série, s'amourage de Billy et va finir même par l'épouser. Enfin, bon, à coup de chantage hein, quand même. Hein. Mais la reine des folles dingues, c'est évidemment Kimberly. Vous ai-je déjà dit que l'actrice qui a la chance incroyable de tenir ce rôle en or, c'est Marcia Cross ? Ben oui, c'est elle, la même qui, quelques années plus tard, sera l'incroyable Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives. Vous vous souvenez ? Elle nous parlait déjà, dans le Previously consacré à cette même série, de son personnage.
Pour moi, Kimberly est psychotique, tandis que Brie est simplement névrotique. Il y a une grande différence, mais oui, Brie est bel et bien névrosée.
Dans cette saison, Kimberly est tellement déséquilibrée qu'elle va prendre le bébé de Joe pour le sien. Elle va aller jusqu'à lui donner le sein dans une scène qui repoussera pour beaucoup de spectateurs les limites du malsain. Et Darren Star a pensé à une fin de saison absolument apocalyptique. Bon, initialement, Kimberly, complètement folle alliée, devait faire s'écraser un avion sur la résidence. Et bien entendu, un avion. Au moment où le scénario était écrit, il y a eu vraiment un avion qui s'est écrasé près de Washington. Donc, ça tombait très mal. Au final, donc, il a été décidé qu'elle allait dissimuler des explosifs dans le parking souterrain de la résidence, qu'elle allait réunir tout le monde dans les appartements de Melrose Place, et que là, il allait peut-être se passer quelque chose. Mais ce final, qui devait lui aussi marquer le départ du créateur de la série, Darren Star, est rattrapé à nouveau par la réalité. Car survient, le 19 avril 1995, l'attentat terroriste d'Oklahoma City, avec son véhicule piégé qui fait 168 morts, 680 blessés et qui va détruire 324 bâtiments. Donc, quelques semaines plus tard, le 22 mai 1995, on voit, dans le dernier épisode de la saison, Kimberly nous dire « Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez !» C'est pire.
Kimberly.
It's worse.
Et stop, rien de plus. Tout ce qui a été déjà tourné a été coupé. Parce que ce serait extrêmement inapproprié de montrer ce qui se passe ensuite en cette période tragique. Et nous voilà revenus au début de ce podcast, en ce jour de septembre 1995 où Melrose Place entame sa quatrième saison. Cette scène, devenue aussi mythique que le massacre de Moldavie de Dynasty, c'est la quintessence de la série que vous suivez maintenant depuis trois saisons. Balancez toute cohérence par la fenêtre à partir du moment où c'est fun, délirant, choc et même un peu trash. Mais, comme le dit Kimberly, le pire reste effectivement à venir. Incarcérée puis jugée pour cette explosion, Kimberly révèle qu'elle a les visions d'un homme dénommé Harry, un homme qui la pousse à commettre ses actes. Elle va revenir à Melrose Place, reconstruite après l'explosion, à peine 7 épisodes plus tard, après son procès. Elle va avoir l'audace de présenter des excuses et, accrochez-vous, comble du délire, Amanda va accepter ses excuses. Voilà. Ça, c'est Melrose Place. On oublie toute logique. Les histoires se nouent, se dénouent si vite que quelquefois, en une scène, il vous suffit de vous absenter un instant pour manquer un retournement de situation. Michael, par exemple, il a trahi à peu près tout le monde dans la série. Il a couché avec quasiment toutes les filles de Melrose Place. Et pourtant, dans l'épisode suivant, celles ou ceux qu'il a dupés redeviennent ses meilleurs amis, ses partenaires. Ce qui vous choquerait dans n'importe quelle autre série, ça serait inacceptable. Ben là, par contre, ça passe comme une lettre à la poste, tant les histoires sont étonnantes, tant les personnages sont parfaitement interprétés, parce que, ne vous y trompez pas, pour que tout ça reste acceptable, il faut bien savoir incarner son personnage. Andrew Fu, par exemple, il va bien s'amuser quand Billy va devenir aussi machiavélique qu'Amanda, et même jusqu'à inviter la célèbre Julie Newmar à une convention publicitaire. Brooke va faire revenir l'ex-mari d'Amanda, Jack Parisi, dans le but de nuire à Amanda. Sauf qu'elle ne sait pas que ce dernier est violent, qu'il fricote avec des gangsters, et qu'il pensait d'ailleurs qu'Amanda était morte. Kimberly, elle, va passer par plusieurs personnalités, sinon ce serait trop simple. Elle va devenir à un moment une motocycliste, genre Son of Anarchy, Rita. Puis elle va menacer le docteur Peter Burns, le faire enfermer dans un centre pour malades mentaux. Et Brooke, quant à elle, après avoir tenté encore de semer le mal autour d'elle, va se retrouver un soir, seule, à Melrose Place, complètement saoule. Elle va trébucher, tombe et se noie dans la piscine du complexe d'habitation. Bêtement, comme ça, en une scène totalement inattendue. Un autre moment délirant dans la série, c'est quand Jane, avec l'aide de sa sœur Sydney, va mettre hors d'état de nuire Richard, son partenaire qui était violent avec elle et qui l'a d'ailleurs déjà violée. Le croyant mort, elles vont l'emmener, l'enterrer derrière une colline, et on voit, alors que leur voiture s'éloigne dans la nuit, dans une scène digne d'un film de zombies, la main de Richard, toujours vivant, qui surgit de terre. C'est n'importe quoi. On sent que le phénomène touche quand même à sa fin. L'explosion du complexe d'appartements a sonné le début de la chute de la série. C'est un peu vrai, tant les permutations amoureuses arrivent un peu en bout de course. Qui peut croire que la naïve Allison soit dans une relation stable avec Jack le rebelle ? Et de nombreux personnages vont disparaître progressivement. Kimberly va bel et bien mourir, Jane va partir, Joe aussi, Matt aussi, Allison va partir, Sydney va se faire percuter par une voiture hors de contrôle le jour même de son mariage, alors qu'elle sort de l'église. Pas de chance. Les saisons suivantes de Melrose Place voient donc l'arrivée d'acteurs et d'actrices plutôt pas mal, hein, comme Rob Estes, le héros des Dessous de Palm Beach, et le mari d'ailleurs de Josie Bissette par exemple, qui tiendra le rôle d'un restaurateur sexy. Et sa femme, sans foi ni loi, incarnée par Lisa Rinna, une comédienne de soap dont les lèvres démesurément gonflées ont beaucoup contribué à sa notoriété. Kelly Rutherford, par exemple, sera Megan, une prostituée au grand cœur, dont Michael va tomber amoureux. Alyssa Milano va devenir la sœur du machiavélique Michael Mancini. Jamie Lunner aussi, tout juste sorti de la série Savannah et qu'on retrouvera ensuite dans Profiler. Et David Charvet, d'Alerte à Malibu, qui va devenir le petit ami de Sydney et ne supportera pas sa mort, à tel point que lui va se suicider seul dans sa voiture sur la plage. Même Priscilla Presley, Tracy Lord et Donna Miles de Côte Ouest feront une apparition dans quelques épisodes. You got a new girlfriend. À la rentrée 1998, pour la saison 7, Andrew Shue a lui aussi abandonné le rôle de Billy. Thomas Calabro, à savoir le docteur Mancini, est donc le seul acteur des origines à rester encore dans la série. Et même avec le renfort d'authentiques chanteurs qui performent dans le jazz club de Kyle, la série ne parvient plus à séduire. Le 31 janvier 1999, la chaîne Fox va annoncer que cette saison en cours sera la dernière. Le 24 mai est diffusé le 227e et dernier épisode d'une série complètement tordue et enthousiasmante. Terminant sur une note romantique, ce dernier épisode nous montre Amanda et Peter réunis sur une île où ils se marient alors que tout le monde les croit morts dans une explosion.
Are you Allison Parker?
Maybe. Who are you?
I'm Billy Campbell.
Et vous, en bon fan, vous n'avez pas manqué ce grand moment. Marqué aussi par une rétrospective des moments les plus trash de la série et des fenestrations, explosions, autres morts violentes qui vous ont passionné des années durant. Bon, vous n'êtes pas fan au point d'acheter les bouteilles d'eau mises en vente et qui sont censées contenir de l'eau de la piscine de Melrose Place, hein. Mais c'est authentique, hein. Elles sont vraiment mises en vente, hein. Mais bon, non, quand même non. Des années plus tard, Andrew Shue, celui qui fut Billy et qui a cofondé une organisation de charité, raconta qu'il prit un plaisir certain à être appelé lui tout seul pour rencontrer Yitzhak Rabin. Il y avait à cette soirée Clint Eastwood, Warren Beatty, Barbara Streisand, Richard Dreyfuss, mais c'est lui que le prix Nobel et Premier ministre d'Israël voulaient rencontrer. Grand Show était dans Devious Maid et dans la nouvelle version de Dynasty. Daphne Zuniga passera de Joe à un rôle régulier dans Les Frères Scott. Courtney Thorne Smith, elle, sera dans Ally McBeal et dans Mon Oncle Charlie. Et Doug Savant, quant à lui, interprétera Tom Scavo dans Desperate Housewives, où il retrouvera Marcia Cross. Dix ans plus tard, Melrose Place va connaître une courte suite, parce que les reboots, hein, voilà. Mais une suite complètement dispensable, une nouvelle génération, avec la présence de Michael Mancini et de la nouvelle propriétaire du complexe immobilier, Sydney. Quoi ? Mais Sydney, elle était pas morte ? Non, vraiment. Bon, là, elle va se faire assassiner dans la piscine, hein. Enfin, c'est pas le sujet. La nouvelle version ne durera que 18 épisodes. La semaine prochaine, nous irons en exploration dans l'espace, cette frontière de l'infini vers laquelle voyage votre vaisseau spatial. Je vous retracerai les coulisses de la série Star Trek. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.